Transportons-nous dans le temps par la lecture du début du chapitre 16 de l'évangile de Marc. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne. À cause de leur effroi, Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Alors, mettons-nous dans le contexte de ce dimanche de Pâques, dans la ville de Jérusalem, avec les disciples au sens large. Il y a les onze, car Judas s'est donné la mort pris de remords d'avoir trahi Jésus, comme nous l'apprend l'évangile de Matthieu. Et aussi, il y a les femmes qui suivaient Jésus. Ce sont elles qui se mettent en mouvement ce premier matin de la semaine pour accomplir un dernier service au corps de leur Seigneur martyrisé sur la croix. Elles ont eu le courage d'assister à cet effroyable spectacle que celui de la crucifixion. Elles sont allées jusqu'au bout de leur engagement à suivre ce Jésus de Nazareth, cet homme qui a changé leur vie et pour qui elles ont tout laissé. Mais qui sont-elles? Marc nous parle de trois femmes, dont Marie de Magdala, aussi connue sous le nom de Marie-Madeleine. Une autre Marie, qui est mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, et enfin une femme nommée Salomé. De cette dernière, nous ne savons pas grand-chose, car elle n'est citée que par Marc au chapitre 15 et dans notre lecture. Pour Marie-Madeleine, nous savons qu'elle est originaire du village de Magdala, sur la rive occidentale du lac de Tibériade. Sa rencontre avec Jésus est une guérison et une libération, car elle était possédée de sept démons. Elle suit Jésus depuis la Galilée, avec d'autres femmes comme Marie, la mère de Jacques. Elles ont mis leur vie entre parenthèses depuis la rencontre avec cet homme si différent des autres hommes et pourtant connu comme fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Ce n'est pas sa situation sociale et sa ville d'origine qui font ce qui les a attirés. Nathanaël, un bon Israélite, selon les propos mêmes de Jésus, qui habite la Judée, se pose la question lorsque Pierre lui annonce avoir Philippe lui annonce avoir rencontré le Messie, celui dont parlent la loi et les prophètes, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Nous comprenons que Marie de Magdala devait être mise au banc de la société, de par sa possession démoniaque, et que Marie, la mère des deux pêcheurs du lac, était aussi au bas de l'échelle sociale. Nous savons que certaines femmes possédaient des biens et pouvaient ainsi pourvoir aux besoins matériels de Jésus et des disciples. C'est ce que nous dit Luc au chapitre 8 et au verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie de Magdala, de laquelle il avait sorti 7 démons, Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ce matin-là, ce sont donc 3 de ces femmes qui se lèvent de très bonne heure pour accomplir ce que leur cœur leur commande. L'ensemble des disciples et tous ceux qui suivaient Jésus viennent de vivre un traumatisme total dans ces heures sombres. Comme nous l'avons rappelé, même la création a manifesté le bouleversement, une éclipse totale qui dure 3 heures en plein midi, des tremblements de terre et même des tombeaux ouverts avec des résurrections, manifestées dans Jérusalem. Alors leur espoir est anéanti. Il ne leur reste plus que ce dernier service, geste d'amour, pour honorer, selon la tradition, ce mort martyrisé en qui elles avaient placé leur espoir. Le jour du sabbat qui a suivi la crucifixion a dû être bien long et bien lugubre pour tous et toutes. Selon la loi, elles ont donc attendu ce dimanche matin pour acheter des aromates en vue de l'embaumement du corps de leur Seigneur. Nous pouvons penser que c'est là une grande dépense, car ce sont des produits très précieux, très estimés et donc très onéreux. Mais leurs affections ne regardent pas à la dépense, ni au risque de se heurter à la garde mise en place suite à la demande des principaux coupables de la condamnation de Jésus, les chefs du peuple, et particulièrement les représentants du Sanhédrin. Ceux qui normalement étaient détenteurs de la parole, des écrits prophétiques et donc doublement responsables de cette condamnation inique. Leur conscience ne devait pas être très tranquille, car ils ont demandé à Pilate, donc à l'autorité romaine, de faire garder le tombeau sous le prétexte fallacieux, un enlèvement du corps de Jésus par les disciples pour faire croire à sa résurrection. Donc, elles sont en route vers le tombeau avec une préoccupation pratique légitime. Comment ces 3 femmes vont pouvoir rouler la lourde pierre qui ferme l'entrée du tombeau? La garde juive postée là ne les inquiète pas, mais ce point pratique verrouille au sens littéral leur action. Pourtant, les soldats placés en surveillance ne vont pas les laisser passer, car nous savons par l'évangile de Matthieu que la grande crainte des pharisiens et des prêtres soit que les disciples, après avoir dérobé le corps de Jésus, qu'ils qualifient au passage d'imposteurs, ne propagent la nouvelle de sa résurrection. Quelle terrible analyse de la part de ces responsables spirituels et religieux du peuple. L'ennemi a endurci leur cœur et fermé leur entendement, cadenassé leur conscience. La promesse du Messie telle qu'ils l'ont comprise ne cadre pas avec ce qu'ils ont observé durant ces 3 années. Donc Pilate, qui ne veut pas se mêler de ces dissensions judéo-juives, leur a retourné leur demande en les chargeant d'assurer la garde par leurs propres soldats. Les voilà qui arrivent au tombeau, jusqu'où elles ont suivi le corps de Jésus, après que Joseph d'Arimathée, cet homme qui est membre du conseil, ait demandé à Pilate le droit de donner une sépulture au Messie. Et quelle a dû être leur surprise? Le tombeau est ouvert, la pierre est enlevée. Elles peuvent donc entrer. Leur crainte est annulée, mais Dieu a prévu un messager pour elles. Leur amour du Christ est honoré. elles seront les premières à savoir l'extraordinaire nouvelle qui change tout. Il est ressuscité. On peut comprendre leur frayeur devant cette rencontre avec un ange. Cette annonce qui aurait dû provoquer leur joie et les mettre en mouvement pour propager cette nouvelle les laisse complètement désemparés. La résurrection annoncée de Jésus par lui-même n'est pas compréhensible par celles même qui croyaient en lui, qui le suivaient et l'aimaient. Tant d'événements se sont succédés durant ces derniers jours. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Je ne peux répondre et gardons-nous de juger leur attitude 20 siècles. Plus tard, avec tous les écrits des évangiles, de l'ensemble de la parole et de l'aide de l'Esprit à notre disposition, elles ne peuvent répondre tout de suite à l'injonction de l'ange d'aller annoncer la résurrection du Messie à ses disciples et à Pierre en particulier, et le rendez-vous qu'il leur est donné hors de Jérusalem en Galilée. Pourquoi Pierre est-il destinataire en particulier de ce message ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais nous pouvons penser que le pauvre Pierre doit être dans un grand désarroi après son reniement et le regard de Jésus en direction de ce dernier, comme nous le relate l'évangile de Luc au chapitre 22 et au verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre se compte-t-il toujours au nombre des disciples après sa trahison ? Lui qui a surestimé ses forces et n'a pas tenu compte des avertissements du Seigneur qu'il avait prévenu. Nous savons que le Seigneur avait un ministère particulier à lui confier et voulait sa restauration et son relèvement. Revenons aux femmes. Vont-elles accomplir leur mission et prévenir les disciples ? La suite du récit et les autres évangiles nous apprennent qu'elles l'ont fait après ce moment où leurs émotions et leur incompréhension de l'événement qu'elles vivaient les ont sidérées. Mais Jésus lui-même va venir à la rencontre de Marie de Magdala. Il va ainsi, je pense, honorer l'expression de leur amour manifesté dans cet acte manqué, son embaumement, qui va faire d'elles les premiers témoins d'un Christ ressuscité et victorieux de la mort et donc de Satan. Est-ce que les disciples vont accueillir la nouvelle avec une explosion de joie et de louange ? Lisons ce que le texte nous apprend. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Ne serais-je pas tenté de juger leur attitude comme incohérente ? Entrons un tant soit peu dans la réalité pour eux de ces jours si sombres et violents. Leur humanité constate que leur Seigneur a été trahi par un des leurs, sous un prétexte frauduleux, condamné à tort par ceux-là même, censé guider et enseigner le peuple, les dépositaires de la parole et de la révélation divine, puis suppliciés de la plus terrible et cruelle façon, invention d'un occupant romain qui n'a pas fait son travail de justice et s'est défaussé pour avoir la paix avec ce peuple souvent rebelle. Comment retrouver l'espérance et revenir aux paroles de Jésus annonçant au travers de la prophétie le concernant cette victoire sur la mort, cette résurrection ? Pourtant, lors de leur cheminement avec Jésus et de ses enseignements, il leur a posé cette question. C'est dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, au verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. « Que dit-on que je suis ? » Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres l'un des prophètes, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Mais il leur faudra un peu de temps et la présence du ressuscité pour entrer dans cette réalité, pour comprendre que sa mort et sa résurrection sont la bonne nouvelle dont ils deviennent les dépositaires et les messagers. Il se révèle à ses disciples, réunis et encore incrédules, malgré le témoignage des femmes, de Simon et des disciples de retour d'Emmaüs, qui ont tous eu un contact direct avec le ressuscité. L'évangile de Luc détaille cela au chapitre 24, ainsi que Jean au chapitre 20. La frayeur les saisit quand Jésus apparaît au milieu d'eux, sans avoir besoin qu'on lui ouvre les portes, qu'ils ont pris soin de verrouiller, car ils se savent dans le collimateur des chefs du peuple qui ont inventé le scénario suivant, l'enlèvement du corps de Jésus par les disciples pour faire croire à sa résurrection et dédouaner ainsi les soldats de la garde. Jésus est porteur d'un message qui est aussi pour nous et tous les croyants de tous les temps. La paix soit avec vous. Il va leur montrer les stigmates de son supplice, ses mains et son côté percé, ce qui chasse leurs doutes et apporte la joie dans leur cœur, car ils ont le Seigneur présent physiquement au milieu d'eux. Nous connaissons tous les doutes de Thomas, qui étant absent va mettre en doute la véracité de leur témoignage et devra attendre 8 jours de plus que le Seigneur se manifeste et lui reproche son manque de foi. Il y a une parole de Jésus pour nous, parole de bénédiction, qui doit nous encourager chaque matin, chacun d'entre nous, qui n'avons pu constater par la vue la réalité de sa résurrection. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 20 à partir du verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix vous soit ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je pense que cette parole s'adresse à nous qui ne l'avons pas vue et qui avons cru. Et c'est une parole de bénédiction pour chacun des croyants qui vivent de nos jours. Alors nous voyons la difficulté qu'ont eu celles et ceux qui ont vu physiquement le Seigneur ressuscité pour le reconnaître, eux qui l'avaient côtoyé pendant les années de son cheminement à travers tout le pays d'Israël. Mais je crois que même si les stigmates de son supplice au calvaire demeurent et demeureront, ce n'est plus l'homme au visage défait que prophétise Ésaïe au chapitre 52, verset 14. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils des hommes, de l'homme. Il est déjà dans une position de vainqueur de la mort. C'est déjà celui qui prophétiquement est nommé le serviteur de l'Éternel par Ésaïe dans le verset précédent, exalté, élevé et élevé très haut. Alors nous comprenons un peu la difficulté des disciples pour reconnaître le maître après le séisme émotionnel qu'ils viennent de vivre. J'espère que ce matin, par la lecture et un temps de méditation sur cette journée centrale dans l'histoire de Dieu avec l'humanité, celle de la résurrection de Jésus, nous avons pu nous immerger un peu dans la réalité de ce qu'ont vécu les femmes et les disciples. Car je le dis pour moi, j'aborde ces textes connus d'une manière souvent trop intellectuelle et sans entrer profondément dans la réalité émotionnelle, mais aussi et surtout spirituelle qu'ils transmettent. Alors pour nous, que représente cette résurrection ? Elle détermine ni plus ni moins la validité de notre foi. C'est l'apôtre Paul qui doit aborder le sujet avec l'Église de Corinthe, dans laquelle certains contestaient la réalité de la résurrection des morts. Il lance cet avertissement en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 16. « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous savons que l'esprit à Corinthe était teinté de beaucoup d'esprit grec, et la résurrection était quelque chose qui n'était pas tellement dans leur logique. Mais pour les disciples du Christ, il n'y avait pas cette opposition, car ils avaient été les témoins oculaires de résurrection aussi, opérés par Jésus durant ses 3 années de ministère. L'on pense tous au fils de la veuve de Naïn, c'était très public, il y avait tout un cortège funèbre. La fille du responsable juif aussi, et bien sûr Lazare. Mais au milieu du polythéisme grec à Corinthe, la résurrection des morts s'était beaucoup plus contestée. À quoi sert alors la foi en Christ et en son sacrifice? La foi chrétienne devient une incohérence totale, car si, c'est la victoire de la mort et de son prince Satan. Mais pour nous, nous croyons en cette victoire qu'est la résurrection de Jésus. Alors cela devient une espérance incomparable. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des obsèques civiles où le défunt était athée de manière revendiquée. Moi, j'y ai assisté parfois. Et il en ressort un sentiment de désespoir mêlé à un sentiment d'injustice, en contradiction avec l'apologie du défunt qui tient souvent lieu de discours funèbres. C'est bien la mort qui a eu le dernier mot. Alors que lors du service accompagnant un croyant fervent et engagé, c'est un message d'espérance qui est transmis à tous les auditeurs, même bien sûr si la tristesse de la séparation reste vive et difficile. La victoire de Christ devient la nôtre sur le pouvoir de la mort. Elle nous place dans ce temps nouveau, inauguré il y a 2000 ans, par ceux qui ont été témoins du commencement de cette période extraordinaire, celle de l'Église. Car si l'Église existe, c'est bien lié à la résurrection. C'est ce qui nous a réunis ce matin autour de la scène. Nous sommes porteurs d'un message d'espérance dans un monde dominé par la violence, la guerre, la destruction, la haine et in fine la mort. L'apôtre Pierre inaugure le début de la prédication en insistant sur ce point. Nous voyons dans les Actes au chapitre 2 et au verset 22, c'est une des prédications qui a fait le plus d'effet, je crois, dans l'histoire. 3000 convertis. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et il termine cette première prédication par ces mots au verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre, qui il y a seulement quelques dizaines de jours auparavant avait renié connaître son Seigneur, par la puissance de l'Esprit et d'une restauration complète, expose avec assurance le plan de Dieu pour son peuple, mais aussi au-delà, par la multitude des langues étrangères parlées par les disciples à destination de tous les étrangers venus de tous les pays voisins. Est-ce le message d'espérance que nous devons porter à changer? Bien sûr, nous ne pouvons interpeller nos contemporains sur les miracles dont ils ont été témoins direct dans leur rencontre avec Jésus, physiquement, comme Pierre a pu le faire. Mais le sacrifice, la mort du Sauveur et sa résurrection sont bien toujours le centre du message de l'Évangile au XXIe siècle, sans masquer le rappel que la mort est le fruit du péché. Car si l'on ne parle plus du péché, à quoi sert le salut? Et par là même le sacrifice de Jésus. Je sais que ce n'est pas très populaire ni très vendeur, mais par contre salvateur. La résurrection concerne tous les humains, c'est une réalité victorieuse pour ceux qui ont saisi le salut en Jésus-Christ, le vainqueur de la mort, le ressuscité en sa présence. Soit de tourments et d'éloignements éternels pour ceux qui ont méprisé, refusé ou nié cette réalité. Christ est ressuscité, victorieux et nous prépare une place, une part éternelle dans la présence de Dieu, dont nous ne pouvons même pas imaginer la parfaite et merveilleuse réalité, car nous sommes encore dans les limitations de notre condition humaine et dans le temps. Est-ce que je suis venu ce matin avec les aromates spirituels préparés dans mon cœur pour honorer, louer et adorer le ressuscité? C'est notre part à chacun, dès à présent. Même si les difficultés et les soucis de notre vie de chaque jour au milieu de ce monde viennent si souvent nous préoccuper et ainsi limiter l'expression de notre amour pour notre Seigneur. Nous pouvons encore annoncer, comme nous pouvons le faire chaque jour, il est ressuscité. Alors je terminerai par cette image qui m'est revenue en mémoire. Lors de nos visites à nos enfants aux États-Unis, qui se trouvent souvent à être à Pâques, sur de nombreuses pelouses devant les villas de l'île de Coronado, l'on pouvait voir ce panneau « Is risen ». Il est ressuscité. Et écrit en plus petit, vous n'arriverez pas à le lire, « Tout est accompli ». Que cette expression de victoire vous accompagne dans cette semaine, à lui toute la gloire.